Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
Alors, on a besoin de travailleurs dans l'industrie de la construction. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé ce programme de formation accélérée avec les gens qui sont ni plus ni moins que payés pour étudier, là, qui reçoivent un dédommagement, une paye pendant la période de leurs études. On a dit, ben, il faut faire ça parce que là, comme on l'a fait pour les préposés aux bénéficiaires, on a besoin rapidement de travailleurs de la construction, autant pour le résidentiel que pour rénover nos écoles, nos hôpitaux, nos ponts, tout ce que vous voulez, et tous les autres travaux à Hydro-Québec. Mais là, ce matin, on voit que l'Alberta met en place tout un programme pour aller recruter des travailleurs de la construction, pas juste au Québec, mais dans toutes les provinces. Crédit d'impôt remboursable de 5 000 $. Puis là, le journal, tant qu'à faire ce matin, fait la comparaison des taux d'imposition. Et on n'est pas à la même place pantoute, là, au Québec et en Alberta. Est-ce qu'il y a un risque que le Québec perde des travailleurs? Est-ce qu'il y a un risque que ces nouveaux travailleurs qu'on aura formés avec les fonds publics québécois aillent ensuite travailler sur les chantiers albertains? Guillaume Hull, responsable des affaires publiques à l'Association de la construction du Québec, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce que ça vous fait peur, cette campagne de recrutement de l'Alberta?
Peur, non. Est-ce qu'il y a un risque? Certainement. Le risque zéro n'existe pas. 5 000 $, c'est pas négligeable non plus. Ceci dit, quand on compare les pommes avec les pommes et qu'on regarde les conditions de travail des travailleurs du Québec à l'échelle canadienne, on est très, très, très avantagé au Québec, là. Le taux horaire à 45 $ de l'heure, un fonds de pension qui est comparable à celui de l'État québécois et des assurances qui sont pratiquement payées à 100% par les employeurs du secteur de la construction.
Il n'y a pas ça en Alberta.
Ça se compare un peu. L'Alberta est la province qui talonne le Québec sur les avantages. Et l'Ontario également, mais le Québec se trouve en tête de peloton,
là. OK. Mais là, faut ajouter au... Là, le 5 000, c'est comme un programme, on va dire, spécifique pour recruter des travailleurs de la construction, là, mais tout secteur confondu, si on regarde juste les tables d'impôts, au Québec, là, on paye 14 % sur le premier 50 000, après ça 19, après ça 24 jusqu'à 126 000. Je veux dire, l'Alberta, là, le pas de 14, 19, 24, là, c'est 10 % pour tout ce monde-là, 10 % d'impôts. Pensez pas qu'il y a des travailleurs de la construction qui vont sortir leur calculatrice?
Quelques-uns, certainement. Ceci dit, on a des avantages aussi au Québec, dans notre société. On a les garderies, par exemple, qui n'ont pas... en Alberta, il y a un programme fédéral, mais il n'y a rien de comparable avec ce qui se fait au Québec en termes de garderies. Nos universités, nos écoles sont subventionnées davantage au Québec qu'elles ne le sont en Alberta également. Et il faut y penser deux fois, là. Quand on quitte notre province, quand on quitte notre famille, quand on quitte nos proches, aller s'expatrier dans une province qui est à plus de 3 heures d'avion et plus d'une dizaine d'heures de route, là.
De route, d'après moi, on est plus proche de 30-40, là.
30-40.
Oui, c'est plus loin. Exact. C'est plus loin que la Floride, là. C'est pas mal plus loin que la Floride, ça. L'air de rien. Le programme, revenons plus précisément au programme qui est offert, là, qui met des gens en formation, qui sont payés pour le faire. Vous avez toujours foi que ça va représenter un apport, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires, qu'il y en a là-dedans qui sont inscrits au programme mais pour finir leur sous-sol ou pour rénover des Airbnb à leur propre compte. Vous avez l'impression que ce sont des exceptions, que la masse va vraiment cet été de travailler ces chantiers?
C'est une confirmation qu'on a actuellement quand on parle au centre de formation professionnelle. Plus de 95 % des gens qui sont dans les centres de formation professionnelle, dans les formations accélérées, devraient se trouver un emploi dans le secteur de la construction. Dès cet été, on a visité un centre de formation professionnelle à Québec, une cohorte en ferblanterie, et 100 % des étudiants qu'ils étaient en train d'apprendre leur futur métier étaient déjà placés chez des futurs employeurs. Ah ouais. Donc, on voit que le programme fonctionne très bien actuellement. On n'a pas d'espoir, mais comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est le même constat qu'on a pour l'Alberta également. Le risque zéro et n'existe pas. Il y a toujours des risques qu'on perde des joueurs en cours de piste. Et on verra pour la prochaine cohorte, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre, par exemple, des conditions d'admission. Parce qu'au ministère, on nous confirme aussi que si les employeurs avaient eu à remplir la paperasse pour conserver les gens là, sur les chantiers, un peu comme on le voit dans le secteur de la santé, ça aurait amené beaucoup, beaucoup de tracas pour nos employeurs. Puis si on voulait pas aller là, de la lourdeur administrative dans le secteur de la construction au Québec,
vous en avez assez. Oui, c'est ça, vous en avez déjà assez. Oui, on peut se l'imaginer. Je reviens aux comparaisons avec l'Alberta. C'est quoi le... Est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce que le Québec perd... Dans l'industrie de la construction, là, je ne vous parle pas tout métier confondu, mais dans votre industrie, est-ce que le Québec perd des travailleurs, mettons, dans les 10 dernières années? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Et l'inverse, est-ce qu'il y a des travailleurs du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario d'ailleurs, qui viennent au Québec? C'est quoi le flux de part et d'autre des frontières?
Ben, j'ai pas les données à proprement dit, Monsieur Dumont. Ceci étant dit, depuis que le régime pétrolier en Alberta est à la baisse, on voit moins d'expatriés vers l'Alberta pour aller travailler, pour aller prêter main forte à ce secteur-là en particulier.
Ouais, ça avait été un gros mouvement, là. Hein?
Exactement. Donc, au tournant des années 2010, là, je vous dirais que il y avait un mouvement de migratoire du Québec vers l'Alberta beaucoup plus qu'il y en a un actuellement aujourd'hui. Là, j'ai parlé à quelques entrepreneurs qui me disent que c'est pas du tout un tracas pour eux à l'heure actuelle.
Parlons de résidentiel parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle de crise du logement. Est-ce que vous avez des signaux que ça va construire plus cet été? Parce que les chiffres qu'on voit, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, c'est pas très optimiste. Est-ce que vous avez des signaux qu'il y aura plus de mises en chantier, une accélération subite, peut-être imprévue, cet été, cet automne, ou peut-être au moins l'année prochaine, en 2025? Ou?
Ben 2025, c'est beaucoup mieux là, dans les chiffres de ce qu'on voit. 2024, devrait ressembler à 2023, c'est-à-dire parmi les plus bas taux de construction qu'on a eu dans les 20 dernières années. Il y a eu pas loin de 38 000 mises en chantier l'année dernière, ce qui est un très bas taux là, quand on regarde ce qui s'est construit depuis les 20, même je dirais les 30 dernières années au Québec. Là. On anticipe quelque chose de beaucoup mieux pour 2025, notamment avec les annonces qui sont prévues la semaine prochaine dans le budget fédéral. Ça s'en vient tranquillement. On sent que l'économie reprend aussi de la vigueur. On devrait voir les taux d'intérêt diminuer. Et c'est surtout ça que les promoteurs et les entrepreneurs attendent là, pour l'instant avant de repartir complètement la machine. Les taux d'intérêt font encore très mal. Les banques sont encore très gourmandes sur les garanties qu'ils demandent aux entrepreneurs et aux promoteurs. Donc, on a bon espoir que 2025 va être une bonne année comparativement à 2024 et 2023 qui ont été catastrophiques.
Le résidentiel étant si tranquille, je comprends que vos travailleurs travaillent quand même, mais c'est on fait plus de l'industriel, du commercial, ou on fait beaucoup de l'institutionnel, des rénovations, d'écoles, hôpitaux. Je sais qu'il y a d'énormes quantités de chantiers, mais les travailleurs qui n'ont pas de boulot dans le résidentiel, je présume qu'ils sont pas chez eux, là, ils sont dans quel type de chantier, mettons, l'année passée, l'année qui vient?
C'est surtout dans le secteur institutionnel commercial qu'on a vu la plus grosse hausse du nombre d'heures travaillées dans les dernières années, là, je vous dirais depuis la pandémie, avec les investissements gouvernementaux, notamment on a 153 milliards actuellement au plan québécois des infrastructures, plusieurs projets d'hôpitaux, plusieurs rénovations d'écoles, les maisons des aînés ont grugé beaucoup d'heures là, dans l'industrie de la construction, mais l'année dernière, 2023, et ce qu'on anticipe pour 2024, c'est le secteur industriel qui est en train de tirer le plus grand nombre d'augmentations d'heures travaillées, notamment avec les investissements dans toute la filière batterie. Là, ça amène beaucoup de pain sur la planche et on travaille énormément à bâtir les usines de demain actuellement au Québec. Et ça, là, je vous dirais, pour les 10 prochaines années, quand on compare 2022 et 2023, j'ai pas tout à fait les chiffres là, pour 2024, là, mais c'est une augmentation de 15 % des investissements dans le secteur industriel. Ça fait son effet à ce niveau-là.
Eh bien, on peut imaginer que quand Nordvolt va se mettre à construire, ça va être un bon chantier. Ça va vous prendre un petit peu de monde, là.
Absolument. On avait 12 000 postes vacants l'année dernière dans l'industrie de la construction. Et on anticipe encore là, un 12 à 15 000 postes vacants pour 2024 au plus fort de l'activité.
Mais
donc,
ouais.
Toutes les personnes qui veulent venir dans l'industrie sont les bienvenues actuellement.
En d'autres termes, si le résidentiel devait reprendre, puis les besoins sont là, il y en a tellement besoin de logements, si le résidentiel devait reprendre sans que le reste là, commercial, industriel ralentisse, on va vraiment, vraiment manquer de main-d'œuvre, mais gravement, là.
On est dans une situation très précaire en termes de main-d'œuvre. Ceci dit, on a des mécanismes, par exemple, avec l'ouverture des bassins de main-d'œuvre qui nous permettent d'intégrer des gens dans notre industrie sans qu'ils aient de formation à proprement dit. C'est pas l'idéal. Les entrepreneurs ne souhaitent pas nécessairement qu'on fasse affaire avec des travailleurs qui n'ont pas de formation parce qu'on doit les former en chantier directement, et ça fait en sorte qu'on a une main-d'œuvre qui est moins productive au jour 1. Ceci étant dit, c'est un mécanisme qui nous permet d'aller chercher la main-d'œuvre dont on a besoin en temps et lieu, mais comme actuellement on est dans une situation au Québec où tous les secteurs ont besoin de main-d'œuvre, tous les secteurs font face à une pénurie de main-d'œuvre, là ça devient plus difficile et on doit se tourner vers l'immigration, par exemple, pour combler nos postes vacants.
Guillaume Houle, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir, M. Dubon. Bonne journée.